Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Chers lecteurs, bonjour. Eh bien, vous voilà de nouveau avec Lecture par tous, l'émission proposée par les collecteurs et par Divergence FM 93.9 à Montpellier. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité, poète, romancier, Gérard Cartier, voilà. Je vais dire tout de suite aux auditeurs, je ne le connaissais pas il y a quelques minutes. On en avait causé, comme on dit.
Oui.
Donc, on va l'entendre, vous allez l'entendre causer ce matin. Bonjour Gérard Cartier.
Bonjour.
Et excusez-moi pour l'erreur que j'ai failli faire sur le prénom. Et puis, ben voilà, je n'allais pas le recevoir tout seul. Donc, bonjour Florence Balestras.
Bonjour.
Florence Balestras, c'est une des collectrices qui connaît bien Gérard Cartier. Et qui s'est dit, ah, ce serait bien de parler de son travail et de le faire parler. Donc, ça va être ta mission
voilà. Ce
matin. Alors, je dis ce matin parce que nous sommes le matin quand nous enregistrons. Vous nous écoutez en général le soir. Voilà.
Voilà, une belle mission parce que j'avais bien envie qu'on fasse découvrir ce roman de Loca Nera qui est paru aux éditions de la Thébaïde. Et j'avais envie de donner envie à des futurs lecteurs de se plonger dans ce roman touffu de 500 pages dont on va parler.
Alors, Loca Nera, les auditeurs les plus attentifs, nous en avions déjà dit quelques mots dans une précédente émission.
Tout à fait.
De nos bazars littéraires. Loca Nera, c'est de l'italien, et c'est loi noire.
Mm-hmm. Oui, loi noire. Alors... Gérard, vous allez tout nous dire sur ce jeu de loi. Peut-être un petit mot en introduction parce que, justement, vous avez choisi la forme du jeu de loi parce que la première chose qui saute quand on regarde votre roman, c'est qu'on a 62 chapitres comme 62 cases d'un jeu de loi. C'était un choix d'une structure, c'était une consigne que vous vous êtes donnée. Comment est-ce que c'est venu cette idée de jeu de loi d'abord ?
Oui, c'est un choix d'une structure qui soit assez forte, d'une part, et puis d'autre part, qui permette une certaine liberté, parce que le jeu de loi, naturellement, c'est l'appel au hasard. Mmh. Et quand on écrit, très souvent, on a en tête des personnages,
oui.
Parfois encore pas totalement formés. On a en tête, évidemment, une intrigue grossière, mais on tient... Enfin, en tout cas, c'est mon cas, à laisser sa part au hasard, à la liberté de l'écriture. Et donc, le jeu de loi, c'est vraiment une forme parfaite. D'ailleurs, elle est assez souvent utilisée par des écrivains, encore récemment par Eri De Luca.
Eh oui.
Voilà. Je rajouterai une chose pour ce qui concerne la structure elle-même. Donc, il y a 62 cases dans le jeu de loi, mais
oui.
L'objectif, c'est d'arriver... à la partie centrale qu'on appelle le paradis de loi.
Ah, voilà.
Et donc, il y a un 63e chapitre qui s'appelle justement le paradis.
C'est vrai. Alors, on va en parler tout de suite. Mais peut-être déjà pour expliquer aux auditeurs, parce que du jeu de loi, il va en être question. Bien sûr, il va y avoir un jeu de loi au cœur de ce récit, ou plutôt de ces récits. Parce qu'il y en a trois. Trois récits, trois brins qu'on peut résumer en quelques mots. Il me semble que le premier récit il se déroule presque de nos jours, c'est en 2012, nous sommes en 2012, le narrateur tient son journal, il est dans le Val de Suse en Italie et il est sur un chantier du tunnel et il va rencontrer la belle Livia et il va y avoir une belle histoire entre ce narrateur et cette Livia qu'on va suivre pas à pas. Donc ça, c'est en 2012. Mais il y a deux autres récits qui se passent dans le passé. Il y en a un deuxième qui se passe en 1947. Enfin, on voit qu'on est juste après la guerre. On voit un couple. On va les appeler Hélène et Joseph, mais on peut dire que ce sont des noms d'emprunt. On ne dira pas qui se cache derrière ces noms-là, bien sûr. Et là, ce deuxième récit, on les voit échapper à un coup de filet au début et fuir la France pour l'Italie. un couple un peu mystérieux, voilà. Et puis un troisième récit qui se passe aussi au moment de la guerre, alors un petit peu avant, peut-être au printemps 44. Et là, on découvre un troisième personnage, dont j'avais dit un petit mot d'ailleurs la dernière fois, une horrible espionne du Vercors qu'on appelle aussi Mireille Provence. Alors, cette Mireille Provence, Gérard, vous pouvez nous en dire un mot? Elle a vraiment existé, elle est vraiment aussi horrible qu'elle est décrite dans ce roman?
Oui, elle a existé, malheureusement. C'est une personne qui est extraordinaire d'un certain point de vue. C'est un personnage de Modiano. Elle est issue d'une bonne famille de la bourgeoisie lyonnaise.
Ouais.
Elle a fait de bonnes études, elle avait son bac, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Elle a rencontré un jeune homme, elle est tombée amoureuse, voilà. Elle a eu un enfant et elle a dû se marier, mais manifestement la condition de femme au foyer, ce n'était pas son truc. Donc elle a abandonné mari et enfant pour se lancer dans le music-hall, aidée en cela par quelqu'un qui est resté dans l'histoire, au moins dans l'histoire du cinéma, qui est Milly Matisse, la tante Claudine de Pagnol,
ouais,
qui tenait un cabaret à Paris. Donc elle a aidé cette jeune fille qui a pris ce nom d'emprunt de Mireille Provence.
Ah oui, c'est bien un nom d'emprunt, oui aussi.
Oui, son vrai nom, c'est Simone Ouarot. Donc, sans doute chantait-elle des chansons provençales, puisque c'était très à la mode à l'époque. Et donc, elle s'est lancée dans le music-hall, elle a fricoté sous l'occupation avec les Allemands.
Ah oui.
Et je ne vais pas raconter toute sa carrière.
On ne va pas, comme on dit en bon français, spoiler
le
récit.
On ne va pas le spoiler, mais par contre, il faut quand même dire aux auditeurs qu'on la découvre, cette Mireille Provence, au moment où, effectivement, elle a cet amant allemand, cet Oberland, qui va peut-être l'aider dans sa carrière musicale, mais quand même aussi, une figure d'une collaboratrice, il y en a sans doute eu dans notre passé. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est au-delà de cet aspect des choses, c'est qu'elle est particulièrement cruelle, votre Mireille Provence, dites-moi, parce que sous prétexte de vengeance, elle va commettre des actes abominables avec les maquisards du Vercors.
Oui, elle a été enlevée par la résistance au printemps bien fini 44, parce que justement, elle avait ses relations particulières avec les Allemands quand elle chantait. Elle a été emprisonnée dans le Vercors, et au moment de l'invasion allemande sur le Vercors, tous les prisonniers de la résistance ont été relâchés, et elle s'est réfugiée dans la plaine. Ouais. Et là, circonstance absolument incroyable, alors qu'elle marche dans son déshabillé du Vercors, du maquis, une grosse torpedo allemande s'arrête à sa hauteur, et c'était le commandant de la répression allemande qu'il avait entendu chanter à Grenoble, qui l'a fait monter à bord et qui la présente à celui qui dirigeait la cour martiale, donc le fameux Oberland, un feldgendarme, un gendarme donc de l'armée allemande, dont elle devient la maîtresse et qu'elle assiste de façon extrêmement efficace dans la répression, c'est-à-dire dans le jugement et la condamnation, souvent à mort, des personnes qui ont été arrêtées, soit sur le plateau lui-même, soit alors qu'ils fuyaient dans la plaine.
Ah, oui.
Et donc le moteur, en fait, c'est plutôt la vengeance.
Et oui, c'est ça.
C'est-à-dire, c'est une collaboratrice d'occasion. Elle aurait pu ne jamais être collaboratrice si les circonstances avaient été différentes. Donc c'est vraiment une pulsion maléfique,
ah oui,
presque irrationnelle.
Oui, parce qu'elle apparaît vraiment cruelle. Elle va livrer ces jeunes. On voit un des personnages qui a juste 23 ans. Et en quelques mots, en très peu de temps, ils vont se retrouver comme ça, livrés aux Allemands et condamnés.
Oui, elle a une quarantaine de morts sur la conscience.
Voilà. Et donc là, ce qui est intéressant dans ce roman, c'est que tout ce qu'on va découvrir, c'est le narrateur qui mène une enquête. Parce que en fait, il y a trois enquêtes dans cette histoire-là. Il y a le narrateur qui va enquêter sur cette horrible Mireille Provence. Il y a aussi le narrateur qui découvre un peu par hasard un jeu de loi, mais alors un jeu de loi particulier, puisque c'est une loi noire, et qu'il découvre dans une librairie de Turin. Et là aussi, on va enquêter parce qu'on ne sait pas très bien. Il y a des figures particulières sur, sur ce jeu de loi. Et petit à petit, on va se dire, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un personnage derrière ce jeu de loi mystérieux. Mais avant d'en parler, peut-être, moi, ce qui m'a bien plu, c'est qu'il y a trois personnages féminins, en fait, dans votre récit, si j'ai bien compris. Alors, on a parlé de la Mireille Provence et une forme d'amour un peu sulfureuse avec son amant allemand. Il va y avoir la belle Livia de Venise. Et là, on est dans la passion avec le narrateur, une passion qui va connaître différents événements, mais ça, je ne vais pas tout vous révéler. Et puis, il y a une troisième figure, celle qu'on appelle Hélène, qui est auprès de Joseph. Et là, on est plutôt dans une forme d'amour mystique. En tout cas, cette Hélène, elle est très pieuse, elle est un peu effacée auprès de son mari, Joseph, puisqu'ils vont se marier pendant le roman. Qu'est-ce qui vous a guidé là, dans ces trois formes féminines, ces trois façons d'aborder les personnages féminins?
Je crois qu'on peut dire ça après, mais quand on écrit, on n'a pas une conception aussi nette du résultat auquel on veut arriver. En tout cas, Hélène, qui est un personnage historique, a une importance dans ce récit, dans cette partie du récit, parce que alors qu'elle est extrêmement effacée dans toute la vie de couple qu'elle a menée avec le fameux Joseph, vers la fin, c'est elle qui finalement domine, parce que on va pas dévoiler, bien sûr, mais
on dira pas
mais
tout.
ce Joseph qui a également un personnage historique très important dans l'histoire de la collaboration a eu évidemment un rôle particulier éminent et se retrouvant relégué en Italie, en plus dans un couvent, donc en dehors du circuit politique et dans l'incapacité finalement d'avoir une action même idéologique, se retrouve totalement amoindri, se retrouve désarmé. Et c'est Hélène qui, elle, a toujours été croyante, qui, alors que Joseph était totalement athée, qui peu à peu prend la main sur lui, infuse en quelque sorte son idéologie sur lui. Et c'est une façon assez particulière, effectivement, de concevoir une fin.
Alors, on entend que, comme romancier, vous êtes intéressé à une période assez trouble de notre histoire. Ça dit, il y a beaucoup d'artistes auxquels on a reproché comme ça des compromissions avec le pouvoir nazi de l'époque. Je pense à Maurice Chevalier aussi, on lui a fait quelques reproches. Alors, je me disais, qu'est-ce qui vous amène, en tant que romancier, à vous intéresser à cette époque-là? Et puis, on fait souvent pas attention aux petits propos qu'un écrivain met en exergue de son roman. Et puis là, il y a une phrase de Heinrich Heine que vous avez mis en exergue de votre roman, que j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit peu plus. L'historien est un prophète qui regarde en arrière. Alors, vous êtes historien, vous êtes prophète, vous êtes romancier. Qu'êtes-vous, juste Gérard Cartier?
Je ne suis pas du tout historien. Le Vercors, c'est quelque chose qui m'a marqué très profondément. Je suis né à Grenoble. J'ai un oncle qui est mort fusillé en fuyant le Vercors. Et quand j'étais jeune, j'ai entendu ce mot « Mireille Provence » prononcé par mon père sans savoir qui c'était. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à enquêter, on ne savait pas qui elle était. Donc, un des objets finalement de ce roman, ça a été d'exhumer cette figure pour comprendre. Je voudrais dire aussi qu'initialement, dans le roman, elle n'était pas prévue. Mireille Provence n'existait pas. La chose qui m'intéressait avant tout dans ce roman, c'était la mémoire historique, comment l'histoire peut avoir encore aujourd'hui une influence, comment on interprète les événements à la lueur du passé. Et c'était manifeste dès le début à travers les appels à la résistance des opposants au tunnel Lyon-Turin. Et même pire, puisque...
On évoquait Eri De Luca, qui voilà. a été mobilisé sur ce genre de questions.
Et il y a même un élément qui, moi, m'a frappé lorsqu'il s'est produit. Les opposants au Lyon-Turin ont donc occupé le terrain qui était prévu pour y faire un chantier et ont appelé cette parcelle de territoire la République libre de la Maddalena. La Maddalena, c'est le nom du lieu. Évidemment, quand on connaît le Vercors, ça rappelle immédiatement la République libre du Vercors.
Eh oui.
Et donc, ces références continuelles au passé ont créé dans le livre des sortes de bouffées de passé qui remontent et qui, petit à petit, se sont intensifiées, se sont imposées, et est venue avec elles la figure de Mireille Provence.
Alors... Là, vous nous dites, on travaille de romancier, il y a des échos presque militants, en tout cas, de quelque chose de bien dans le présent, hein, je veux dire. Alors, en même temps, je me questionne, parce que sur la table, j'avais aimablement donné un de vos volumes, c'est de la poésie. Alors, comment passe-t-on, ou comment ça se complète, je ne sais pas, entre poésie et roman, deux formes bien différentes qu'est-ce qui pousse le poète à devenir romancier ou comment ça fonctionne ce rapport entre les deux ?
Je pense qu'il y a d'abord une raison qui est liée aux circonstances. Pour écrire un roman, il faut avoir du temps, c'est une opération qui est longue. Il faut pouvoir y travailler de façon continue. Donc sur ce roman, j'ai travaillé 4 ans de façon continue, suivi ensuite par plusieurs années de reprises, de modifications.
Quand vous dites travail, on imagine qu'il y a le travail d'écriture, mais est-ce que c'est aussi un travail de recherche, de rat de bibliothèque ou,
il y a un travail de recherche.
Ou de journaliste qui va enquêter sur le terrain. Est-ce que c'est tout ça à la fois?
Il y a un travail de recherche, mais que je mets à part. Bien sûr, il faut aller dans les archives, chercher des renseignements qui d'ailleurs sont souvent contradictoires, même dans les archives officielles. Le nom, par exemple, le vrai nom de Mireille Provence, suivant les archives, est extrêmement variable. Tantôt elle s'appelle Simone Varro, tantôt elle s'appelle Simone Provence, Mireille Varro. Bon. Et puis, je dévie un peu, mais des Simone Varro, il y en avait plusieurs. À la même époque où Simone Varro, donc Mireille Provence, était recherchée par 4 juges d'instruction en France. Il y en avait une autre qui s'appelait aussi Simone Varro, qui était en prison, arrêtée pour collaboration à Lyon. Donc l'histoire, finalement, rassemble dans ces archives toute une série d'événements, mais sans en donner d'interprétation. Et on se retrouve face à une masse qui, parfois, est contradictoire, souvent qui est extrêmement... parcellaire, et donc il faut essayer de, quand on est romancier, il faut essayer de les interpréter, et quand ça manque, on n'a pas le droit de livrer un roman avec des pages manquantes, il faut inventer le passé. Et c'est la référence finalement à la citation de Heine, qui est de dire que le travail du romancier, mais le travail de l'historien aussi, c'est un travail d'invention, d'une certaine façon.
Oui,
on invente le passé.
Voilà, mais moi, je trouve que c'est ça qui m'a vraiment le plus plu dans votre roman, c'est ce rapport à la mémoire et l'idée qu'on va pouvoir, avec le roman, garder une trace, et sinon, ça va être perdu. J'ai envie quand même de lire un peu une phrase ou deux, parce qu'on n'a pas encore parlé du style de Gérard que vous avez déployé dans ces 500 pages. Mais par exemple, cette phrase qui dit « Que devient ce qu'on possède dans l'instant, dans la pure dilapidation du désir ?» Cette forme gracieuse qu'on ne sait pas retenir, qu'on ne tente pas de garder en soi peut-être, sachant déjà que c'est inutile, que le corps est sans mémoire. Que m'en restera-t-il plus tard quand nous serons séparés ? Voilà, moi, c'est ce qui m'a touchée, c'est l'idée que, il y a cette passion amoureuse entre le narrateur et Livia, il y a cette quête historique sur cette cruelle Mireille Provence, il y a l'histoire énigmatique de Hélène et Joseph, et de tout ça, on va faire un roman parce que sinon, on va perdre quelque chose. Et en écho à l'introduction de Heinrich Heine, on peut aussi citer en postface ces mots d'Olivier Rollin qui, à mon avis, disent beaucoup de votre roman. « Les témoins meurent, puis ceux qui ont entendu raconter les histoires, le silence se fait. Les vies se dissipent dans l'oubli. Le peu qui ne s'en perd pas devient roman, qui a ainsi à voir avec la mort. » Il me semble, moi, avoir compris que votre tentative de conserver au travers de ce roman, c'est une manière de rendre hommage à des personnages historiques, mais aussi de garder une trace aussi bien de cette histoire amoureuse que cette histoire cruelle du Vercors. Est-ce que c'est...
Tout à fait. Oui, c'est tout à fait ça. Le romancier, bien sûr, a le droit et même l'obligation d'inventer. Mais il a aussi une obligation vis-à-vis de la réalité historique. Et donc, c'est ce double cheminement qu'il doit affronter lorsqu'il écrit un roman. Et cette question de la mémoire et de l'oubli est évidemment centrale.
Alors, nous acheminons tranquillement vers la fin de notre émission. Les minutes tournent. On a dit, c'est publié par un petit éditeur, enfin, en tout cas par la taille, c'est pas un gros éditeur, la Thébaïde. Est-ce qu'il y a un travail particulier où, on avait discuté un petit peu avant d'enregistrer l'émission, on disait oui, il y a quelque chose quand même qui est
oui,
de qualité.
La Thébaïde, déjà, c'est l'histoire d'une rencontre. J'ai découvert cet éditeur au Salon du Livre. Sur sa table, il y avait plusieurs livres qui parlaient du Vercors. Donc on a discuté naturellement, je lui ai posé la question « Connaissez-vous Mireille Provence ?» Il m'a dit non, donc je lui ai dit que j'étais en train d'écrire un roman dont elle était une des protagonistes. On a sympathisé, quand j'ai eu terminé, je lui ai fait lire mon manuscrit, il m'a fait des commentaires, donc il m'a incité à retravailler le livre et je lui en sais gré. Et c'est donc plus qu'un éditeur, c'est quelqu'un qui a aidé à faire accoucher à l'accouchement du livre.
J'ai envie de dire, c'est un vrai éditeur.
C'est un vrai, oui, voilà, c'est un vrai éditeur, mais ils ne sont pas si courants. Si je peux m'exprimer
c'est pas
ainsi.
Juste un fabricant de livres ou un marchand de livres, c'est un véritable éditeur. Voilà. Donc, alors, un autre éditeur, je vais essayer de vous lancer tout à l'heure sur ça, puis ça, on est parti ailleurs. Un autre éditeur qui fait vraiment un travail d'éditeur aussi, c'est le Castor Astral, qui est connu beaucoup comme éditeur de poésie, pas seulement, mais beaucoup de poésie. Alors, votre activité poétique, là, parce qu'on a beaucoup parlé du romancier, comment vous conciliez les deux? Ça se complète? C'est l'un est une parenthèse de l'autre que,
oui, comment je me rends compte que je n'ai pas répondu.
Voilà, vous n'avez pas répondu à mes questions sur la poésie, alors j'y reviens.
En fait, ce que je voulais dire, c'est que le roman nécessitant un travail continu et long, il faut du temps. Et quand on a une activité sociale, moi j'étais ingénieur, donc je travaillais 11 heures par jour, toute la semaine, c'est quasi impossible de mener à bien un roman. Par contre, la poésie dont l'unité et le poème, la page, c'est possible. Et donc, j'étais une sorte de poète du dimanche, on va dire. j'ai publié une quinzaine de livres de poésie, de livres qui sont souvent, parfois, qui sont souvent des romans, parfois des livres qui mêlent la réalité et la fiction, toujours en vers ou en prose, mais en tout cas avec une forme qui est la forme de la poésie. Le roman n'est pas si différent que ça de la poésie, c'est-à-dire que l'exigence est la même. En principe, on ne doit pas écrire un mot sans se poser la question, mais est-ce que c'est ce bon mot-là ? Il faut revenir sur ce qu'on a écrit. Mais évidemment, la poésie réclame une certaine distance à la réalité, une ambiguïté plus forte, une imprécision. un écart avec la grammaire aussi. Ce qu'on ne peut pas se permettre, au moins avec le roman. Moi, je dirais que le travail d'écriture du roman, il est aussi au niveau de la composition, au niveau de l'organisation des chapitres. Et ça fait une différence quand même assez importante avec la poésie.
Alors, des projets d'écriture, là, on rapproche vraiment du terme de notre émission. On avait prévu une petite lecture, on aura peut-être le temps, mais... Ah, juste avant ça, qu'est-ce qui est en chantier ? Un autre roman La poésie, on entend que c'est un peu un rythme de journal. Saisis l'opportunité.
Il se trouve que je suis très très long à écrire. Donc généralement, mes livres, y compris mes livres de poésie, il me faut 10 ans avant de les publier. Je viens de terminer un livre de poésie qui est dédié à ma fille, qui s'appellera Le roman de Marat. Que j'ai commencé il y a 25 ans.
Et qui paraîtra... Votre fille a grandi entre-temps.
Entre-temps, elle a grandi, absolument. Donc, il a fallu... Bon, qui paraîtra dans 3-4 ans. J'ai d'autres projets. En particulier, je voudrais, en poésie encore, refaire le Tour de France par deux enfants. Ce fameux livre de lecture de la fin du 19e siècle. Mais dans la France d'aujourd'hui... c'est-à-dire reconduire en poésie la démarche qui a été celle de Bailly dans le dépaysement. J'en ai d'ailleurs écrit déjà une partie, il faut simplement que je trouve le temps pour le mener à bien. Et puis me trotte dans la tête l'idée peut-être d'une suite à l'Ocanera, parce que je n'ai rien dit de ce qui s'est passé... après l'arrestation de Mireille Provence.
Ah.
Or, c'est quand même très intéressant et ça dit beaucoup de choses de la société française d'après-guerre.
Alors, on va terminer sur une courte lecture pour que nos éditeurs puissent avoir un peu dans l'oreille.
Ah oui, je crois qu'il ne faut, pas oublier qu'il y a un style derrière ce Ocanera et vous donner envie aux auditeurs de se plonger dans ce roman parce que le style est vraiment caractéristique. Je vous lis un court extrait de la librairie, le moment où le narrateur va découvrir ce fameux jeu de loi. L'aveugle se tient comme d'habitude au débouché de la Via Roma sur Piazza Castello. Adossé au premier pilier des portiques qui entourent la place, immobile, la main tendue vers les passants qui s'enfoncent sous les voûtes. Je ne sais pourquoi, souvenir inconscient d'un vieux film italien ou vague réminiscence d'un roman, il n'y a pas si longtemps, avant que leurs successeurs ne s'acharnent à faire du banal leur seule épopée, certains écrivains étaient capables de ces sortes de traîtrises. La plume habile à faire surgir de la plus triviale réalité un mystère si bien tourné qu'on en restait charmé et troublé malgré soi. J'ai souvent pensé qu'il feint son infirmité, posté chaque jour à cet angle stratégique. La mise impeccable, le regard mobile qu'il ne prend pas la peine de cacher sous des lunettes noires, épiant les passants de ses yeux voilés, indisténus mais suffisants pour me faire douter.
Voilà donc un extrait de L'Ocanera de... Gérard Cartier, lu par Florence Balestas. Merci Florence
de
cette lecture et puis de nous avoir fait découvrir le travail de Gérard Cartier. Merci Gérard Cartier de nous avoir présenté votre travail. J'espère que, en tout cas moi ça me donnait envie d'aller y voir de plus près. Les dés ne sont pas fournis mais j'irais bien jouer avec L'Ocanera, jouer à la lire. Merci à vous. Merci à Bruno Bertrand à la technique et rendez-vous pour une prochaine émission et de nouvelles lectures. Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.